Tout un monde.
Marie-Hélène Freixé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Ce soir dans Tout un monde, voyage au Chili en terre mapuche, ce qui veut dire gens de la terre. Ce sont les habitants ancestraux de la côte chilienne. Ils sont aujourd'hui près d'un million, soit environ 5% de la population du Chili. Et à Paris, au Musée de l'Homme, une exposition qui vient d'ouvrir montre la complexité de leurs connaissances en ce qui concerne les plantes et leurs usages et qui montre aussi l'urgence de perpétuer ces savoirs. Question de justice, mais aussi question d'intérêt général. Les Mapuches s'appelaient autrefois les Araucans, en tout cas ce sont les Espagnols qui les appelaient comme ça. Au fil des siècles, ils ont développé un lien très savant avec leur territoire le long de la côte chilienne, face à l'océan Pacifique qui vient rouler ses grosses vagues au pied de leurs montagnes et de leurs forêts. C'est un lien plurimillénaire qui se distend en ce moment à cause des déplacements de population, des spoliations de terres et des avancées de la monoculture. L'histoire se répète, hélas, de manière sinistre dans toutes les Amériques et pas seulement en Amazonie. On parle plus souvent de l'Amazonie. Mais au sud du Chili, l'emprise coloniale est récente et les Mapuches ont pu conserver leur langue, certaines de leurs pratiques rituelles et aussi nombre de connaissances concernant leur environnement. Des connaissances qu'il est urgent de sauvegarder puisque les Mapuches ont été spoliés d'à peu près les 9 dixièmes de leur terre. Et ce qui disparaîtrait avec ces savoirs traditionnels, bien, c'est aussi une perte pour l'ensemble de l'humanité, pour nous tous. Bonsoir Flora Pennec.
Bonsoir.
Vous êtes ethnobotaniste, vous travaillez au Muséum d'Histoire Naturelle et vous venez de réaliser une vaste enquête justement sur ces savoirs Mapuche concernant le monde végétal.
Exactement, hein, oui.
Avec ses applications donc curatives, rituelles, enfin on a l'impression que chez les Mapuche le rapport au végétal est central dans la culture.
Ah oui, c'est une. Les plantes sont très importantes pour toutes les activités du quotidien, que ce soit pour construire les maisons, pour faire de l'artisanat, même pour fabriquer les instruments de musique, comme la petite trompa qu'on a entendue à l'instant.
La petite trompa, j'entendais une guimbarde, moi.
Oui, mais en fait, c'est.
Ils appellent ça trompa ?
Ouais, le nom,
ah,
le nom,
nom espagnol.
On peut l'appeler trompa.
Ah ouais.
Donc les plantes sont utilisées, oui, pour plein de choses, et notamment pour se soigner et pour aussi rentrer en contact avec les divinités supérieures, enfin les esprits.
Alors vous êtes partie, Flora Pennec, missionnée par le Muséum d'Histoire Naturelle pour faire toute une enquête sur ces savoirs liés aux plantes.
Exactement. Donc je suis partie pendant un mois au Chili, accompagnée de Tito et Florencia, les deux artistes avec qui on a collaboré dans le cadre de l'exposition Mapuche Voyage en Terre Lafkenché.
Alors Lafkenché, ça veut dire Mapuche du Sud, hein, si j'ai bien compris.
C'est le nom de des communautés Mapuches qui vivent, c'est ça, au sud et au bord du Pacifique, en fait. C'est les Mapuches qui vivent près de la mer.
Donc, c'est l'espace de côte qui se trouve au sud de Santiago et avant la Patagonie, en fait.
C'est ça, exactement.
Alors, Tito est avec nous, Tito González García.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes photographe, cinéaste et vous travaillez donc avec votre femme. Vous êtes, vous, fils de réfugiés chiliens en France?
Oui, c'est ça. Arrivé en 73, après le coup d'État.
Et donc, vous avez créé avec votre compagne un collectif Ritual Inhabitual et ça vous a donné l'occasion, cette enquête donc en terre Lafkenché Mapuche, ça vous a donné l'occasion de découvrir votre propre pays d'origine.
Oui, oui. Enfin bon, moi j'ai habité après l'arrivée de la démocratie en 89 quelques années au Chili. Mais bon, c'est une double découverte d'une part parce que les Chiliens, ils n'ont pas vraiment un rapport très développé avec les Mapuches. Et pendant très longtemps, ça a été un rapport qui souvent n'a pas été, enfin qui a été caché ou qui
hostile même carrément,
où il y avait un manque d'intérêt complet, quoi. Enfin, disons que même de la part de l'éducation, ce qu'on peut en dire, c'est que moi, à l'époque où je suis allé à l'école, on nous enseignait que les grands guerriers qui ont réussi à résister aux Espagnols. Donc ça, il y a une certaine fierté pour la construction d'un pays de dire que c'est les seuls qui ont résisté d'abord aux Incas, c'est important de le dire, et ensuite aux Espagnols. Donc c'est un peuple, disons, de guerriers. Mais une fois que l'État commence à se construire, déjà, on est un peu moins intéressé par ce côté guerrier, puisqu'il résiste aussi à la construction de l'État, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon.
Alors vous êtes entré dans cette réalité l'afghanche et plus largement mapuche, avec les outils donc, qui sont les vôtres, la caméra et aussi un drôle d'appareil photographique à l'ancienne.
Oui, justement, c'était une volonté que de, déjà, d'une part, de se retrouver face à la création d'une image photographique qui aille à l'encontre de ce qu'on réalise aujourd'hui. C'est-à-dire que, enfin, grâce au téléphone portable, c'est quelque chose de positif, mais il y a aussi un rapport à l'image qui est totalement démystifié d'une certaine façon, ou en tout cas avec une importance qui est complètement individuelle et qui peut être très rapidement ou prise ou ne pas prise. Mais quand on arrive avec un appareil photo qui a 100 ans et qu'on a besoin de créer ses produits chimiques soi-même, on impose à la personne qui va être photographiée de décider que c'est un moment important. Enfin, un moment à prendre, en tout cas, important ou pas, mais à offrir.
Et la personne est témoin de l'image qui se forme, alors, qui
alors,
s'élabore.
Alors, la personne n'est pas témoin de l'image parce que l'idée, c'est qu'elle ne bouge pas trop devant la caméra, mais elle
est... Parce qu'il y a un temps d'ouverture important.
Il y a un temps d'ouverture important qu'aujourd'hui, grâce à la technique, on réussit à réduire avec des flashs. Avant, il n'y en avait pas. Mais surtout, il y a le temps de la préparation de la plaque. Et ce temps de préparation implique que la personne ne bouge pas parce qu'on fait la mise au point avant d'aller préparer la plaque. Et du coup, si elle bouge, la mise au point est perdue. Donc, il faut qu'elle attende. Elle comprend que nous, on fabrique quelque chose d'étrange dans un endroit obscur en général, donc caché sous une bâche ou quelque chose. Et ensuite, on réapparaît, on prend la photo et on redisparaît pour développer à la suite de ça.
Donc, ça veut dire que l'acte photographique devient lui-même un acte rituel.
Exactement. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vu. Et là, c'était une double problématique parce que les Mapuches, comme nombreux Indiens en Amérique du Sud, n'aiment pas vraiment être pris en photo pour plusieurs raisons. Les plus classiques, c'est des raisons spirituelles. Mais ensuite aussi pour une raison de manque de confiance avec les personnes venant de l'étranger, tout particulièrement avec les Chiliens. Je pense que ça a été plus simple de dire qu'on était français à certains moments que de dire qu'on était chilien, parce que par exemple avec Flora, elle a eu accès à certains savoirs que je suis pas sûr que si elle avait été de l'État, on va dire, qui serait venu avec...
Il y aurait eu une méfiance.
Il y aurait eu une méfiance, ouais. Encore une fois, ils auraient eu l'impression d'être spoliés de quelque chose.
Ah, ça, c'est un extrait très émouvant de votre film, Tito González García. C'est un homme qui chante, un Mapuche. Il chante et il pleure en chantant. Et on a l'impression qu'il chante cette chanson, qu'il la retrouve en quelque sorte et qu'il y a une grande émotion. Pourquoi pleure-t-il ?
Alors là, c'est super intéressant que vous posiez cette question, parce que dans notre travail, on a aussi travaillé, donc qu'on rencontrera plus tard, avec des jeunes rappeurs de la ville, mais on a compris que le rap avait un rapport avec la musique traditionnelle, parce qu'en fait, ce sont des chants d'improvisation. Donc ce sont des personnes qui, quand elles rentrent dans ce chant-là, parlent de leur propre vie. Et non, c'est pas forcément une chanson qu'ils ont écrite, même c'est absolument pas une chanson préécrite, c'est une chanson qui naît au moment de la réciter. Et en général, ce sont des récits des moments de la vie un peu compliqués. Donc lui raconte à ce moment-là comment, quand il a essayé de partir à vivre à Santiago, la vie était dure, qu'il travaillait dans une boulangerie, et que, enfin voilà. Et du coup, c'est son souvenir de ce voyage qui effectivement le font pleurer.
Alors dans ce film qui s'appelle Le jeu est un autre, on voit bien que les Mapuches sont un peuple blessé et en même temps un peuple très fort, dans lequel il y a une forte résilience, notamment les anciens, donc sont porteurs de savoir. et de savoirs rituels, de savoirs en matière de cuisine et de savoirs liés aux plantes. Et Flora Penneck, c'est le sens de cette magnifique enquête qui vous a pris plusieurs semaines.
Oui.
Donc pour comprendre la subtilité, la complexité de ce lien avec les plantes des Mapuches.
Oui, exactement, parce que ces savoirs sont multiples, donc en fonction des personnes, en fonction de leur statut, en fonction de leur histoire, en fonction de leur place dans la communauté. Les personnes vont avoir des savoirs différents en fonction des plantes, et certaines personnes qui vont par exemple avoir un rôle au sein de la communauté pour certaines formes de guérison, des femmes qui vont s'occuper d'autres femmes, notamment pendant la grossesse ou pour faire les accouchements, vont avoir des savoirs spécifiques à ces soins-là, et d'autres personnes qui vont avoir donc des connaissances plus sur par exemple les matières pour faire des constructions, et ou alors donc là des personnes très spécifiques qui sont les machis, donc les chamanes, qui elles vont avoir donc des savoirs liés pour rentrer en contact avec le monde surnaturel, métaphysique, magique.
Alors donnez-nous quelques exemples justement de ces plantes. Certaines sont des plantes inconnues chez nous, on est dans l'hémisphère sud, on est dans un climat déjà un peu froid, on est vers quelle latitude? On est du côté
on est à peu près à
50e
un peu au-dessus. Donc là, c'est vraiment au centre du Chili. Quand on prend le Chili dans toute sa longueur, on est vraiment en plein centre du Chili. Donc c'est à peu près au 40e degré sud. 40 degrés sud. Et donc, on va avoir des forêts qui sont tempérées, humides. Donc c'est déjà une écorégion qui est assez rare sur l'ensemble de la planète. Et dans ces forêts, on va avoir donc toutes sortes de formes végétales, des arbres, des arbustes, des lianes, des herbacées. Mais par exemple, il y a des plantes qu'on connaît même nous ici en France. Par exemple, le fuchsia est une plante originaire de cette région qui s'appelle chilco localement et dont le fruit se mange traditionnellement. En tout cas, c'est une plante alimentaire, entre autres. Une autre plante, par exemple, que vous connaissez peut-être, c'est le boldo. Peut-être on a entendu parler avec le nom de la boldoflorine.
La boldoflorine.
Voilà, et qui vient du boldo. Donc c'est un arbre endémique qui est vraiment originaire, pareil, de cette région-là.
J'ai regardé d'ailleurs, elle est interdite maintenant, cette tisane. Pourquoi?
C'est vrai.
Elle est dangereuse?
Alors je ne sais pas. Alors, après, maintenant, il y a beaucoup de tisanes, médicaments.
C'est un laxatif, en fait.
D'accord. Ok. Donc donc ça aide à la digestion. Donc, traditionnellement aussi, les Mapuche les utilisent pour justement faciliter la digestion et régler les problèmes de foie. Mais cet arbre est aussi utilisé par exemple pour la construction des maisons traditionnelles, rien que pour faire les piliers des maisons, etc.
Et donc c'est efficace, c'est particulièrement adapté, parce que ce qui est important dans l'enquête, c'est qu'elle puisse révéler des types de propriétés des plantes qui ont une vraie utilité, qui sont spécifiques aux plantes de cet endroit-là et dont les usages sont spécifiques sur place.
Oui, c'est ça exactement. Essayer de comprendre pourquoi des personnes ont utilisé des plantes qui se trouvent dans leur environnement très proche, plutôt que d'aller chercher des molécules fabriquées de façon synthétique par la chimie, par les laboratoires pharmaceutiques. Après, nous, notre enquête s'arrête en fait à la collecte de ces savoirs et de ces utilisations. On ne va pas faire les analyses derrière pour savoir s'il y a en effet des molécules qui ont des propriétés actives pour telle ou telle maladie ou tel ou tel phénomène. Ce qui nous importait le plus, c'était de rendre compte que les savoirs sont divers, varient en fonction des personnes, varient en fonction des plantes, en fonction des régions, mais que ces savoirs sont dynamiques. Donc il va y avoir une réappropriation des savoirs en fonction des études que, par exemple, des personnes vont faire, l'accès à l'éducation, mais aussi, par exemple, à la mise en place de programmes du gouvernement chilien qui veulent valoriser ces savoirs autochtones, indigènes, en mettant, par exemple, en place un petit livret qui recense une centaine de plantes qu'on peut trouver au Chili, avec l'indication des propriétés qui sont souvent déduites de savoirs traditionnels, donc avec certaines qui sont vérifiées scientifiquement, mais pas toutes. Et donc ce livret, par exemple, est disponible à tout le monde, puisqu'on peut le trouver sur Internet, le télécharger, etc. Et aussi diffusé dans certains centres, par exemple dans dans certains lieux de l'État chilien.
Et donc, ce sont des savoirs empiriques au départ.
Voilà, qui ont été collectés, rassemblés, diffusés, soumis à une vérification par le système de santé chilien, avec les autorisations de mise sur le marché, etc. Mais avec une vérification quand même de ne pas empoisonner les gens en leur disant d'utiliser ces plantes-là, comme le boldo, par exemple, maintenant qui est interdit. Mais du coup, ces personnes vont pouvoir se réapproprier ces savoirs et les remodeler en fonction de eux, de leurs connaissances passées et aussi de ce qui a été, de ce qui est diffusé, par exemple, par ces voies-là.
Alors, pour les aspects rituels, à quoi servent ces plantes? Puisqu'on voit dans les films, on va peut-être avoir le temps d'en dire un mot, dans les films de Tito González, donc, que ce sont des gens, les Mapuches, qui aiment beaucoup se réunir, qui chantent et qui d'ailleurs ont développé des sortes de cultes un peu mixte, chrétien, chamanique, etc. Alors, que font les plantes dans ce rapport au monde complexe?
Alors, il y a des plantes qui aident à la danse, par exemple. Et en entraînant la danse, vont permettre justement de rentrer dans cet état de transe. C'est le cas du maquis. Donc, c'est un arbre qui est utilisé à partir de, enfin, dans beaucoup, beaucoup de cérémonies mapuchées. Et qui est simplement porté, on a une branche, tout le monde a une branche de maquis dans la main pour danser, et les mouvements de la branche va permettre de rentrer en transe et d'appuyer un petit peu les mouvements du corps, etc. Pour rentrer dans la
cérémonie. Il y a des plantes hallucinogènes dans votre liste ?
Il y a des plantes qui ont des pouvoirs hallucinogènes, mais qui ne sont pas utilisées pour rentrer en transe. Donc, c'est une des particularités de l'activité chamanique des Mapuches. Ils ne consomment pas de plantes pour rentrer en transe. C'est la transe par le chant. Et les plantes qu'on m'a signalées comme ayant des propriétés hallucinogènes, en fait, étaient par exemple utilisées, donc c'est le cas du datura, qu'on connaît aussi bien maintenant, qu'on plante des fois dans les jardins, etc.
C'est pas autorisé.
C'est pas autorisé, mais qu'on peut trouver. Bon, il y a certaines formes de datura qu'on peut...
C'est comme le cannabis. Les gendarmes pourraient trouver à redire.
Ah bon, moi j'en ai vu dans les jardins. Alors je dirais pas, je dénonce pas mes voisins. Et donc les graines de datura étaient par exemple données à consommer aux enfants. Donc ceci rentrait du coup dans une forme de... avec des hallucinations, et ce que les enfants faisaient sous l'emprise du datura allait révéler en fait leur avenir. Donc si jamais l'enfant se mettait à voler quelque chose dans la poche de ses parents, celui-ci allait finir voleur. Voilà, par exemple. C'était un exemple qu'on m'a donné, donc ça permettait de révéler l'avenir de l'enfant.
Et pouvoir lister ces plantes et donc les restituer donc aux populations mapuches, c'est quelque chose qui réenracine, qui redonne de la fierté?
Exactement. Donc on a voulu donc... on peut pas faire un catalogue exhaustif de toutes les plantes et de tous les savoirs, liés aux plantes des Mapuches. Mais ce qui a été important, c'est aussi qu'ils se rendent compte que si nous on s'intéressait à ces savoirs-là, c'était que eux aussi devaient être fiers de ces savoirs-là et de les valoriser en fait, rien que sous forme de quelqu'un a eu un intérêt pour mes savoirs et pas forcément pour me les voler, mais juste parce que eux ils ont pas cette connaissance-là et que ces savoirs peuvent enrichir. Les connaissances sur les plantes.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Tout un monde ce soir chez les Mapuches du sud du Chili. On entend un extrait de votre film, Tito González García. C'est un culte chrétien, évangélique, catholique.
Oui, c'est et une église méthodiste pentecostale. Donc ce sont des chrétiens protestants et qui sont donc arrivés en Amérique, enfin les États-Unis, c'est quelque chose qui est très développé, et puis du coup il y a une sorte de vague de déferlement dans les années 60-70 en Amérique du Sud, et notamment chez les Mapuches ces dernières années il y a eu une énorme explosion de l'investissement de ces églises au sein des communautés, puisqu'il existe dans certains endroits ce qu'on appelle des comunidades indígenas qui délimitent un territoire que les Indiens se répartissent sans la possibilité de vendre la terre à des Chiliens, donc blancs d'origine disons occidentale.
Oui, parce que les Mapuches, on le sait bien, sont en lutte. Ils ont été spoliés, on leur a retiré des territoires. Et en plus, les avancées de la déforestation et de la monoculture ont été dramatiques. Justement, ces connaissances, on ne l'a pas encore dit de manière aussi précise, mais ces connaissances en matière végétale qui sont si précieuses, elles sont mises en cause aussi par ça, car les plantes elles-mêmes sont en train de disparaître, Flora Pennec.
C'est ça, exactement. Les plantes qu'on trouve dans les forêts natives sont menacées par la reconversion des terres pour l'exploitation agricole, mais aussi forestière. Donc on trouve beaucoup d'exploitations de bois avec du pin et de l'eucalyptus, donc vraiment des monocultures qui empêchent aussi la colonisation par d'autres espèces dans ces plantations, et donc des plantes endémiques qui sont menacées de disparaître par ces remplacements, par ces cultures.
Et puis alors, il y a d'autres périls, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, on a vu ça un petit peu partout dans toute l'Amérique du Sud et en Afrique aussi, ils viennent de l'extérieur, ils observent ces savoirs en matière de plantes et ils cherchent à mettre un brevet. Et ça, c'est un des grands scandales qu'il y a eu, c'est-à-dire des entreprises pharmaceutiques ou de cosmétiques qui viennent labelliser à leur propre compte des savoirs traditionnels. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à Jean-Dominique Waïch, qui est avec nous en ligne, qui est juriste pour le muséum et qui a beaucoup travaillé ces dossiers, puisque notamment la France vient de signer cet été le protocole de Nagoya, qui vise à garantir les populations contre ces spoliations. Jean-Dominique Waïch.
Oui, le protocole de Nagoya qui a été signé en 2010 à Nagoya, prévoit effectivement un certain nombre de protections pour accéder maintenant aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et puis aux connaissances traditionnelles en général. Et donc aujourd'hui, il est prévu, ce texte international prévoit que des mesures doivent être élaborées par chaque État pour accéder aux connaissances traditionnelles de ces populations autochtones, ou population autochtone est un terme un peu spécifique. En France, on parle dans la loi biodiversité de communauté d'habitants, c'est plus vague, ou de communauté villageoise, en tout cas de communauté qui ont des modes de vie traditionnels. Donc aujourd'hui, pour accéder à ces connaissances, dans certains États, parce que encore une fois, il faut que chaque État adopte une législation pour protéger les connaissances traditionnelles de ses habitants. Et pour accéder à ces connaissances, il faut normalement prendre la tâche de la communauté qui détient cette connaissance et se mettre d'accord avec cette communauté pour un partage des avantages. Alors ça peut être un partage d'avantages financiers ou bien d'avantages non financiers de différents types.
Donc ça exclut, Jean-Dominique Waïch, ce qui avait été tenté par certaines compagnies de mettre un label, leur propre label, sur des savoirs traditionnels. Aujourd'hui, grâce au protocole de Nagoya que la France a quand même mis un certain temps à signer, ça n'est plus possible.
Elle l'a signé très vite, mais elle l'a ratifié. Oui.
Et aujourd'hui, il est appliqué, le protocole de Nagoya. Alors, en France, parce qu'il y a des savoirs traditionnels comme ça en Guyane, oui, par exemple.
Oui, exactement. Bon, alors, la loi biodiversité, qui est sortie au mois d'août également, prévoit un certain nombre de dispositions pour protéger les connaissances traditionnelles. Maintenant, les décrets d'application doivent sortir incessamment. Et donc on peut compter d'ici fort peu de temps de disposer des décrets d'application qui permettront réellement d'appliquer ces dispositions. Et puis, bien entendu, des consultations devront avoir lieu avec les communautés traditionnelles de Guyane et puis des autres départements, territoires d'outre-mer.
La protection des savoirs traditionnels, donc un dossier qui avance lentement, mais qui avance.
Voilà.
Mari mari kalfu wenu mapucho, mari mari kalfu wenu mapunyuke, mari mari kalfu wenu mapu weche wentu, mari mari kalfu wenu mapu hulcha thumo, mari mari onfucha, mari mari onkuse, mari mari homge na mapun, mari mari nyuke mapu, mari mari taifuta ne wenfuta kete yemeu. Agnol Chun, Agnol Mapul. Pelu don tain kome feyen te. Pelu don tain fudane wen, tain kome ne wen. Pelu don tain fudane wen, fudake che yen beo.
L'herbier magique des Mapuche. Aujourd'hui, dans Tout un monde, on écoute un groupe de rap Mapuche que vous connaissez bien, Tito González García. Ils ont repris des musiques traditionnelles. Qui est ce groupe?
Alors en fait, il y a tout un mouvement. Il y a carrément un label qui se dédie à signer des artistes d'origine Mapuche. Il faut savoir que dans les années 50, dans les moments où toutes les populations des villes essayent d'aller vivre dans la capitale, qui est Santiago, qui compte quand même 7,5 millions d'habitants sur 15 millions, c'est-à-dire qu'il y a 50% des Chiliens qui habitent dans une seule ville, dans un pays de 4700 kilomètres, c'est quand même assez fou. Eh bien, beaucoup d'Indiens de la zone de Temuco et de la Araucanía sont donc montés à Santiago et par un racisme inhérent de la population chilienne, ont caché leurs origines et ont commencé à s'amasser dans la périphérie, donc en général du sud, puisque le train arrivait un peu comme ici à Montparnasse, arrivait du sud et ont commencé à se réunir dans des quartiers qui sont devenus avec le temps des quartiers défavorisés, qui l'étaient déjà à l'époque, mais qui aujourd'hui le sont vraiment plus que jamais, et qui ressembleraient à ce que nous on a ici comme les banlieues. Et du coup, par le même phénomène qui existe en France ou aux États-Unis, ces jeunes qui ont grandi dans le ghetto ont adapté donc la musique du hip-hop venant d'Amérique comme étant la leur. Et à l'intérieur de cette jeunesse se divisent ceux qui finalement étaient des Chiliens pauvres avec ceux qui étaient des Chiliens Mapuche pauvres. Et à ce moment-là, ces jeunes commencent à s'intéresser à leur origine en disant, bien, qu'est-ce qu'on va raconter? Bah, au lieu de raconter le shit, les arnaques et toutes les choses qu'on peut trouver ici, eh bien, c'était, bah, moi, je suis d'une origine indienne et j'en suis fier.
Alors, leur grande force au Mapuche, c'est que finalement, la conquête, entre guillemets, du sud du pays, enfin, les ingérences du pouvoir hispanique sont récentes. La langue est intacte, donc les vieux ont encore des savoirs et ils peuvent faire le lien avec les nouvelles générations.
Alors là, ce qui est intéressant justement pour le cas de Santiago, c'est que ça a failli plus être le cas. C'est-à-dire que dans les premières vagues, donc la deuxième génération, les années 50-60, les grands-parents ont cessé de parler à leurs enfants, tel que les Italiens l'ont fait au début du siècle en France, ou les Algériens ont pu le faire dans les années 60, et les enfants ne parlent pas forcément le Mapuche. Mais ces enfants ont eu des enfants, qui sont donc des personnes plus ou moins de ma génération, entre 30 et 40 ans, qui eux se sont intéressés donc à travers cette musique au savoir de leur grand-père, donc plus de leur père puisque leur père n'en parlait pas, et ont appris à parler la langue à travers le rap. Donc ils faisaient tout simplement traduire leurs textes par leurs grands-parents.
Merci Tito González García, merci aussi à vous Flora Pennec et à Jean-Dominique Waïch qui étaient au téléphone. Cette émission était organisée autour de l'exposition qui vient d'ouvrir au Musée de l'Homme à Paris, Mapuche, voyage en terre Lafkench, exposition jusqu'au 23 avril avec des rencontres, des Mapuche viennent à Paris, déjà certains sont venus ces jours derniers, prochaine rencontre le 25 février, des musiciens, la musique Mapuche et puis l'engagement d'une communauté. Donc l'exposition propose aussi des réflexions. Enfin, il va y avoir beaucoup d'allers-retours et on va voir les rappeurs venir à Paris le 8 avril. Voilà, au Musée de l'Homme. À signaler également les ouvrages de Fabien Le Boniek, qui a été un peu votre informateur, qu'on n'a pas pu avoir parce qu'il est au Chili en ce moment. Le livre « Pour tout savoir sur les Mapuches à la mode », c'est à l'Harmattan, c'est paru en 2015. Voilà, Mapuche pas mort. Dans Tout un monde, on a entendu leur voix. Tout un monde, le magazine des cultures. À la prise de son, Éric Boisset. À la réalisation, Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissé. Infos complémentaires et réécoute, bien entendu, sur le site franceculture.fr à la page Tout un monde. France Culture, vous avez rendez-vous avec Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent. Chitai
to vignette I even taro make me and to make him melt I in my puche dungu alin chin you can do any kim catch him out come remember the swallin you chao put you care lu make him melt man pa in to win my puche you wake him on a nine yeah man for track at kim che bitch get care what take a check you mad them yeah yo don't run if you care in kicking la punta I'm up on one